Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle. Plus de 500 000 objets ethnographiques provenant de la RDC sont conservés dans les musées en Europe. Le Musée royal d'Afrique centrale, lui, compte près de 120 000 objets, dont près de 80 000 sont de la RDC. Et la question soulevée aujourd'hui est, plus d'un siècle après le rapatriement de ces objets en Occident, faut-il les restituer aux Africains ou aux Congolais? Quel est le niveau du débat en RDC? Les avis divergent. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au magazine Identité culturelle sur Radio Okapi. La province de Sankourou et l'ouest du Maniema. Vous êtes sur Radio Okapi. Vous avez peut-être déjà visité un musée, que ce soit au pays ou encore à l'étranger. Pour certains visiteurs, c'est un choc qu'ils ressentent lorsqu'ils se retrouvent en face des centaines, voire des milliers d'objets issus de leur culture et présentés dans un musée. Et depuis près de 5 ans, des Africains soulèvent la question sur la manière dont ces objets ont été collectés. D'autres vont jusqu'à réclamer une restitution. Et le débat est ouvert, que ce soit en Europe ou en Afrique, et même en RDC. Au cours de ce magazine, vous entendrez les avis pour et contre la restitution ou le rapatriement. Monsieur Chimba, notable de la communauté Bulubayi Bukata dans l'ex-Katanga, il vit à Lubumbashi, il est d'avis que ce patrimoine doit être restitué.
Ici, j'interviens en tant que notable Mulubakati. Au départ, nous devons mettre en tête que l'Afrique est caractérisée par la tradition orale. Nos ancêtres, nos aïeux n'ont rien écrit. Maintenant, à travers les œuvres d'art, l'artiste africain a voulu exprimer les modes de vie anciens. C'est à travers cette œuvre-là qu'il a mis sur pied qu'un étranger, qu'une personne étrangère à cette conception peut maintenant recourir à l'auteur pour qu'il puisse lui expliquer les bien fondés de cette œuvre d'art. Étant donné que quelques œuvres ont été vendues ou les autres déportées d'une manière non connue jusque-là.
Même de façon frauduleuse.
Oui, parce qu'on a même connu des gens qui n'étaient pas prioritaires qui ont vendu. Vous voyez, moi je vois que ce mieux qu'on puisse ramener ces œuvres d'art-là. Parce qu'à l'heure qu'il est, ces œuvres sont en train de mourir. Parce qu'il n'y a personne qui doit interpréter, qui doit signifier les bien fondés de ces œuvres d'art-là. Parce que moi je vois que ce mieux de les retourner à la source. À travers ces générations, nous voyons que l'authenticité, l'origine, la tradition africaine est en train de se perdre. Il faut maintenant qu'il y ait des gens qui doivent expliquer les bien fondés de ces œuvres. À travers ces explications, la nouvelle génération aura maintenant à connaître comment les anciens ont vécu, comment les anciens s'étaient organisés dans les différentes couches de la vie sociale.
Le fait que ces œuvres sont muettes aujourd'hui, est-ce que c'est une façon de détériorer l'œuvre et de taire l'histoire qui entoure chaque objet?
Oui. Ces œuvres, pendant qu'elles sont gardées à l'étranger, dans un pays lointain des concepteurs, des auteurs, des artistes qui ont conçu ces œuvres d'art, c'est une peine inutile. Parce que ceux-là qui les gardent, on sait d'abord pour quelles raisons ils les gardent. Ceux-là qui les ont mis sur pied, qui les ont créés, qui les ont taillés, ils savent également pourquoi ils les ont mis sur pied. Étant donné que l'auteur, le concepteur de l'œuvre d'art n'est pas à l'endroit où l'œuvre d'art est conservée, moi je vois que ces œuvres d'art sont en train de mourir. Ce n'est pas indiqué de les garder dans un pays étranger, c'est mieux de les retourner là où résident les concepteurs ou bien les artistes.
Est-ce qu'une autre option ne serait pas de recourir aux concepteurs, qu'ils puissent faire une légende? Comme ça, on pourrait ramener cette légende au niveau du musée de Terwijnen, par exemple en Belgique, où, là où ces œuvres d'art se retrouvent, pour leur donner une histoire, pour leur donner une légende, pour que ces œuvres commencent à parler, que les visiteurs puissent en bénéficier.
L'idée n'est pas mauvaise, mais pour moi, contacter les artistes ou bien les concepteurs pour qu'ils puissent émettre un avis sur le bien fondé de ces œuvres, ce n'est pas indiqué. Non, il n'y a pas d'altérité. Parce que là-bas, c'est difficile d'expliquer pourquoi. Parce que prenons par exemple ce que nous appelons chez nous Kiondo. Quand on battait ce Kiondo-là, il y avait un message qu'on transmettait. Chez nous, le Kiondo était utilisé de différentes manières. Les Moulouba pourraient utiliser le Kiondo pour annoncer, par exemple, s'il y a un décès au niveau du village. Il doit battre cet instrument-là avec un message bien spécifique. Les Moulouba pourraient utiliser ce Kiondo-là pour appeler les gens qui doivent aller au culte. Il doit leur dire, leur vient d'arriver, venez au culte pour un motif bien quelconque, bien défini, pour adorer Dieu. Dans les messages bien précis, même la personne qui est à distance, il va entendre qu'on nous interpelle au village, il y a soit décès, il y a soit un culte, il y a tel événement. Maintenant, à supposer que nous prenons ce symbole-là, ce Kiondo-là, nous l'amenons en Europe. Bien gardé, bien protégé. Mais les messages, les mobiles.
Les touristes, on va expliquer aux touristes à quoi ça servait.
Mais on va lui expliquer, mais on ne va pas battre ça. Vous voyez, on ne va pas battre. Les messages ne vont pas passer. Ça sera une théorie, mais la pratique, ça sera autre chose.
Merci Karine Topé. Madame Maudine Tamboué vit à Bruxelles depuis plus de 40 ans. Nous l'avons rencontrée à l'occasion de la conférence internationale sur Partager le passé et l'avenir, renforcer les liens entre l'Afrique et l'Europe. Conférence organisée au mois de septembre dernier par le Musée royal d'Afrique centrale et l'Institut Egmont. Elle est opératrice culturelle. Madame Maudine Tamboué est aussi en faveur de la restitution en RDC des objets ethnographiques. Et c'est une cause qu'elle défend en tant que Congolais de la diaspora.
Une fois qu'ils ont traversé l'océan, on va dire, ils ont acquis un statut d'artefact, que ce sont des objets artistiques qui sont destinés à l'admiration des visiteurs dans un musée. Là où ils étaient, ils faisaient partie de la vie et du quotidien de peuple. Ils avaient donc une autre fonction qui a été détournée volontairement ou involontairement ou accidentellement. puisque la question de restitution se pose surtout pour les objets dont on sait qu'ils ont été sciemment dérobés à leur détenteur ou premier propriétaire. C'est ça, la question de la restitution se pose certainement sur celle-là. Donc la question de la restitution doit être abordée dans un dialogue pour qu'on voit, comme le Pays-Bas semble le faire, quels sont les critères premiers pour une restitution ou pas. Et ensuite, une fois restitué, parce que souvent quand on dit restitution, beaucoup objectent d'abord, oui mais les musées africains ne sont pas équipés pour recevoir ces objets. Mais la question est un débat secondaire, parce que, vu que ces objets n'étaient pas d'abord dans des musées, la question de la conservation muséale ne se posera que pour ceux que les Africains, une fois restitués, auront décidé que oui, ça doit être dans un musée. Il y a des objets qui ne seront peut-être pas dans des musées. Il y a des objets qui seront peut-être détruits. Mais ça, c'est la souveraineté de celui qui est le propriétaire premier, celui à qui on restitue l'objet, que ça doit le faire. Et c'est vrai que c'est difficile puisque, en ayant traversé l'océan, ils ont acquis une valeur marchande, alors qu'avant, ils avaient une valeur morale. C'est ça toute la question. Des musées vivent parce que cet objet a une valeur marchande et que des gens payent pour venir le voir. Alors que si on le restitue, ben, sa valeur marchande n'aura peut-être plus de sens.
Mais alors, du côté de l'Afrique, on met plus l'accent sur, comme vous avez dit, sa valeur morale, ça représente la culture. Il y a des objets, par exemple, qui ont été pris auprès des chefs coutumiers qui avaient une certaine valeur sacrale, autoritaire, et aujourd'hui qui se retrouvent dans des musées, c'est des objets morts.
Donc oui, c'est des objets morts qui ont perdu leur charge vitale, on va dire, et qui vont peut-être la réacquérir, cette charge vitale, en étant restituée. Et est-ce que certains Africains veulent redonner cette charge vitale parce qu'elle a un sens dans leur communauté, oui ou non? Mais je pense que c'est une question qui doit être abordée, et j'allais dire, ça c'est à la discrétion de l'Africain de savoir à quoi veut-il redonner vie, à quoi veut-il éteindre la vie, parce qu'il y a des objets dans les musées qui ont une charge vitale dont les Africains ne veulent plus.
Donc une charge négative.
Une charge négative, une charge vitale négative que les Africains veulent absolument éteindre et qui est toujours là, existante dans le musée, et que ce n'est pas bon selon eux. Donc c'est vraiment un dialogue qui va faire mal, comme on a dit, mais qu'il faudra avoir. Contrairement à ce qu'on pense, les nouvelles générations sont aussi en demande de restauration de l'histoire. Que la vérité soit dite, et si la vérité veut dire on a volé des choses, dans d'autres cas de guerre entre peuples, des artefacts ont été volés, je pense ici aux biens volés par les nazis pendant la guerre. Jusqu'aujourd'hui, ce qu'on retrouve, on le restitue. Parce que la question est aussi, jusqu'où doit-on remonter? Il se trouve que l'histoire coloniale a 400 ans, on peut au moins remonter jusqu'à 400 ans.
Le mouvement doit plutôt venir de l'Afrique, alors qu'aujourd'hui les débats sont plus engagés en Europe, et l'Africain ne fait que suivre. Vous êtes ici, c'est la diaspora africaine, sur cette question-là. Quelles sont les actions que vous menez?
Mais voilà, c'est l'Afrique, le mot est lâché. On dit que le débat doit venir de l'Afrique, mais l'Afrique est ici avec sa diaspora. Sa diaspora reconnue officiellement cette année par l'Union africaine comme 6e région d'Afrique. 350 millions d'individus. Et dans cette Afrique extraterritoriale, on va dire, les Africains sont au cœur de cette discussion. Si ce débat a lieu aujourd'hui à travers le musée, c'est parce que depuis les 3, 4, 5 dernières années, c'est un débat qui a lieu au sein de l'associatif, au sein des opérateurs culturels africains et afro-descendants de Belgique, de France, d'Europe et du monde.
Aïe, aïe, balé. La vie, mes amis, très souvent c'est une comédie. Un méli-mélo, des trémolos, ma foi, quelle tragédie. Oui, mais c'est la vie, oh yeah. Dibou mouezaline, matoïté. Matoïpé, les caca, mototé, oh yeah. Oh yeah, c'est à Bongi soni na bokilote Koba akele la kanda kote Bokili koutou pata. La vie, mes amis, c'est aussi une belle mélodie, une symphonie riche d'harmonie. C'est bon la vie. Oui, c'est bon la vie. Oh yeah. Ma belle boyaka et bembete. Iwa et bonaka, moanate, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Ma boko mi bale basalaka bandate. Mbula et bangaka mokosite. Nyamu nyamu.
Merci de rester à l'écoute du magazine Identité culturelle. La question de la restitution du patrimoine culturel congolais n'est pas appréhendée de la même manière, nous l'avons dit. Certains Congolais estiment que la RDC n'a pas encore développé la culture de la conservation et de la protection du patrimoine commun. Professeur Maurice Amoury de l'Université de Lubumbashi a plutôt un sentiment de regret.
Le niveau du débat, c'est d'abord au niveau du regret. Du regret, et nous déplorons vraiment que la situation dans laquelle on se trouve, nous chercheurs surtout, quand nous voulons, nous faisons de la recherche et nous voulons consulter ceci ou cela, mais nous n'arrivons pas à trouver des archives ici chez nous parce que non seulement elles sont mal conservées, mais détruites, spoliées, pillées, et donc nous n'avons plus ce sens de bien conserver les choses. C'est ainsi que moi, dans mon domaine de littérature, nous avons organisé ici en 2010 un colloque sur les 100 ans de la ville de Lubumbashi. Mais tout ce qui a été produit ici, tout ce qui a été réalisé comme dans le centre de recherche, de production, de création, nous allons dans les bibliothèques, nous allons dans la bibliothèque même de la Gécamine, tous les journaux qui ont paru, on ne sait plus les retrouver. Mais il a suffi que je fasse un déplacement à Belgique, j'ai tout retrouvé, et c'est là que j'ai pu avoir des éléments pour réaliser ma recherche. Ça, c'est déplorable. Voilà donc c'est d'abord le niveau de le problème du regret, de déplorer cet état de choses. Donc, il nous faut alors voir comment retrouver ces mentalités de bien conserver nos archives.
Donc, le problème se trouve au niveau de la sauvegarde et la conservation des archives.
Exactement. C'est à ce niveau-là et au niveau du respect de tous ces biens, parce qu'après tout, c'est un patrimoine public, un patrimoine national, et il faut le respecter. Et il faut bien le conserver et que l'État prenne toutes les dispositions pour créer des infrastructures pour les conserver et toutes les dispositions légales et pour les conserver et même arriver à punir tout ce qui justement désacralise, contribue à la perte de toutes ces archives. Donc il y a une politique, il doit y avoir une politique de conservation, de sauvegarde, une politique de bien garder nos archives à nous, parce que c'est notre passé, c'est ce qui construit le présent et même l'avenir. Mais s'il n'y a rien, c'est fini. Et vous savez, un pays sans passé, sans archives, c'est un pays mort.
Professeur, est-ce que Est-ce qu'il y a quand même un dialogue qui est engagé sur cette question ici au pays, entre chercheurs, artistes, opérateurs culturels, je ne sais pas, l'État, sur cette question?
Ben non, je ne crois pas. Peut-être dans les universités, au niveau avec nos étudiants, dans nos colloques, mais sur le plan national, je ne le sens pas encore. Parce que ça doit venir d'abord du ministère de la Culture, de la bibliothèque du pays, de la bibliothèque centrale, bibliothèque générale. Donc ce sont ces institutions qui doivent relancer ce débat. Et parce qu'ils organisent même des états généraux sur ça. Et de ces états généraux peuvent alors découler de recommandations et des recommandations qu'il faut appliquer pour implanter ou réimplanter cette culture de sauvegarde, de conservation de nos archives.
Cet avis est également soutenu par Arthur Kalunga, chercheur indépendant et opérateur culturel à Lubumbashi.
Alors, quand je voyage à travers la RDC et tout le Grand Katanga, comme on dit actuellement, je me rends compte que c'est un problème de conscience, une conscience politique et même des politiques culturelles aussi. Mais je vais vous décevoir dans ce sens que je ne vois pas comment encourager, moi en tant qu'opérateur culturel et chercheur indépendant, tant que tout ce qui est là comme patrimoine n'est pas sauvegardé, n'est pas protégé, et il y a beaucoup de choses qui disparaissent comme ça par manque d'application, d'exécution d'une certaine politique culturelle dans notre pays, alors je pense que cette question est à revoir. Quant à moi, je préfère me réserver et encourager que ça reste un peu là où ces objets demeurent, sont protégés, sont sauvegardés. J'ai les pillages de tristes mémoires des années 90-91. Eh bien, j'étais à l'époque agent au Centre culturel français de Lubumbashi, l'actuel Institut français Halle de l'Étoile. Je coordonnais les activités de ce qu'on appelait le train culturel qui sillonnait tout le Chaba à l'époque, aujourd'hui le Grand Katanga. Il y avait des bibliothèques, il y avait des wagons bibliothèques, il y avait des wagons cinéma, il y avait beaucoup de patrimoine, beaucoup de richesses, beaucoup d'archives que nous avions récupérées sur toutes les voies ferroviaires et que nous avons gardées ici, et tout avait été pillé dans un centre culturel. Alors, je pense que je suis un peu sceptique quant à ça.
Mais aujourd'hui, il y en a qui pensent, il y a certains Africains qui pensent qu'il faut restituer ce patrimoine parce qu'il appartient aux Africains, aux Congolais.
Oui. C'est bien. Qu'est-ce que nous gardons, qu'est-ce que nous sauvegardons, qu'est-ce que nous protégeons par rapport à ce qui existe déjà? Et pour garantir que certains objets ethnologiques, ethnographiques, pourraient revenir ici avec la garantie d'être protégés et d'être sauvegardés. C'est ça la grande question que je me pose. Ce sont des objets qu'on doit identifier. Moi, c'est un travail de recherche. Hein. Il faut effectuer des voyages de recherche. Quand nos amis vont voyager à travers toute l'Europe, sans passer à Tervuren, sans passer sur l'île de Gorée, comment est-ce qu'on va conquérir l'histoire? Moi, je pense que c'est un travail de recherche. Il faut que certaines recherches se fassent en partenariat avec le musée de Tervuren, en littérature, en partenariat avec les archives et musée de la littérature de Bruxelles. Donc moi, je pense que c'est un travail de recherche. Il incombe à nous, chercheurs indépendants et autres patentés, à nous, opérateurs culturels, et à vos organes de presse, et le travail que vous êtes en train de faire, c'est vraiment louable. Je pense que c'est une occasion d'interpeller tout le monde, et dans toutes les couches possibles, tant politiques, sociales que culturelles, pour qu'on fasse certains travaux de recherche, et d'identifier tout ce que nous pouvons considérer comme objet mort, parce que sans légende. De toutes les façons, les légendes peuvent exister, et il y a moins d'interroger les témoins vivants, et aussi ressusciter certaines archives que nous ont léguées certains artistes, certains chercheurs qui nous ont quittés, qui nous ont précédés.
Comme on le voit, le débat est assez engagé sur la question de la restitution ou du partage du patrimoine culturel congolais et africain conservé dans les musées en Occident et en Belgique en particulier. Mais déjà, le Musée royal d'Afrique centrale s'est dit ouvert au dialogue, comme le dit M. Guido Gissels, son directeur général.
Premièrement, en ce qui concerne ce débat sur la restitution, nous sommes tout à fait d'accord avec ce que le président Macron a dit, que ce n'est pas normal qu'une si grande partie du patrimoine culturel de l'Afrique se trouve en Europe. Ce n'est pas normal. Déjà, il y a une estimation que déjà sur le Congo, il y a 500 000 objets du patrimoine culturel qui se trouve en Europe. Donc, la première chose à faire, c'est se mettre autour de la table et initier le dialogue. Intervenir est certainement prêt à entrer dans ce dialogue. Et ensuite, écouter quels sont les besoins des Africains, parce que ce n'est pas une question qui peut se répondre en oui et non. Nous sommes certainement ouverts au débat. Il faudra commencer à faire des inventaires des objets du patrimoine culturel qui se trouve en Europe. Et il faudra parler en premier lieu d'exposition itinérante, assurer un accès beaucoup plus facile pour les pays africains. Pour le moment, c'est assez difficile, mais donc il faut d'abord assurer un bon accès à ces collections. Une partie de ce patrimoine peut être digitalisée et restituée en forme digitale. Je pense aux films, je pense aux photos. Ce n'est pas très difficile pour les digitaliser, pour les mettre en ligne. Alors tout de suite, on donne accès à un patrimoine d'une façon moderne. Mais de l'autre côté, il y a toujours les objets. Là, il faut séparer une restitution juridique qui est quelque chose, même si je voulais faire, qui est juridiquement difficile parce que ça doit être approuvé par un acte parlement. Et donc, ça prendra du temps. Donc, entre-temps, il faut parler de prêts à long terme, des expositions itinérantes conjointes, mais tout cela est possible. Et ces derniers jours, pendant la conférence, moi, j'ai parlé avec plusieurs directeurs africains, de musées africains, où j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ils disent, voilà, ce que nous, on veut surtout, c'est avoir accès à ces collections, les utiliser pour des expositions temporaires, à les utiliser pour des expositions permanentes, surtout savoir ce que vous avez et ensuite le pouvoir utiliser quand nous en avons besoin. Qui est le propriétaire légal à ce moment n'a plus tellement d'importance tant qu'ils peuvent l'utiliser. Et donc, à court terme, on avance dans ce sens. On travaille déjà avec le Rwanda et le Sénégal d'une façon très constructive. Donc, il y a des gens qui pensent que la restitution, c'est notre musée à 120 000 pièces ethnographiques. D'un jour à l'autre, tous les 120 000, ils vont retourner au Congo ou dans les autres pays. Je ne pense pas que c'est ça qui est nécessaire, mais il faut surtout ouvrir le débat. Il faut aussi se réaliser que dans certains pays, il n'y a pas assez de capacité pour gérer le musée. Donc, toutes les négociations doivent aller main à la main avec des investissements pour renforcer les capacités nationales, des investissements dans la gestion des collections, dans la conservation des collections, dans la gestion de musées. Donc, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Et donc, en parlant de la restitution, en parlant d'assurer un accès beaucoup plus facile aux musées africains, le patrimoine qui se trouve ici en Europe, il faut aussi parler d'un programme de renforcement de capacités.
C'est la fin de ce magazine Identité culturelle. Merci à Jean-Marc Matouak pour la coordination, Julie Ngala pour la réalisation, Karine Topé était au reportage, prise de son Pierre Diassinois. Devant ses micros, Denise Mahamouassi Kissimba. Au revoir et à la prochaine.
Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.